explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
À travers le monde, il existe des sociétés à contre-courant du modèle dominant, des communautés dans lesquelles les femmes occupent une place centrale et détiennent des pouvoirs clés. Il y a un peu plus de 10 ans, lorsque la photographe Nadia Ferrucchi a commencé à s'intéresser à ces communautés, elle était loin de s'imaginer la richesse des constructions sociales qu'elle allait découvrir. Ses recherches l'ont conduite sous toutes les latitudes. Avec son appareil photo, elle est allée, par exemple, en Indonésie, à la rencontre des Minangkabau, chez qui les femmes transmettent le nom et l'héritage. Au Mexique, elle a croisé la route des apothèques, où les femmes gèrent l'argent et le distribuent aux hommes. Au Kenya, elle a rendu visite à des femmes qui s'étaient regroupés dans un village sans hommes pour se protéger de leur violence. Et ce ne sont là que quelques exemples. Dans un très bel ouvrage intitulé « Les matriarches » paru aux éditions Albin Michel, Nadia Ferrucchi raconte à travers ses photographies et les textes qui les accompagnent la vie de 10 sociétés de femmes à la rencontre desquelles elle est allée sur les 5 continents. Cet après-midi, la photographe nous emmène à la découverte de ces communautés où les femmes sont au premier plan. Et en fin d'émission, nous nous intéressons aux forces volcaniques qui ont façonné certains paysages de nos régions avec le passionné de géologie Georges Fetterman. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Claire Tesser avec à la technique Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est moi le chef de famille. Chez nous, personne ne quitte jamais la maison de sa mère. On n'a pas à diviser la terre ni notre patrimoine. Pour les décisions, c'est facile parce qu'aucun étranger ne s'en mêle. C'est l'affaire des femmes.
Les hommes ne sont jamais chefs de famille, car il n'y a dans ces villages Mossuo que des maisons de femmes. Les hommes sont donc condamnés à voyager entre la maison de leur mère où ils travaillent et celle de leur femme où ils vont passer la soirée et la nuit.
C'est la coutume chez nous. Je passe mes nuits chez mon épouse. Là, je repars travailler chez ma mère, mais je donne aussi des cadeaux et de l'argent à ma femme. C'est comme ça.
Nous commençons notre bivouac chez les Mosso, aux confins de la Chine, à la frontière du Yunnan et du Sichuan. Bonjour Nadia Ferrucchi.
Bonjour.
C'est aussi avec la communauté Mosso que vous ouvrez votre livre « Les matriarches ». Comment sont organisées ces maisons de femmes ?
Alors déjà, peut-être qu'on pourrait commencer par parler de ce que signifie « matrilinéaire ». Parce que je pense que l'exemple du Mosso est peut-être celui qui est le plus emblématique, le plus connu aussi. Ouais. Ça fait depuis à peu près 2000 ans que cette communauté a su résister à un monde patriarcal d'une part, à toutes sortes de menaces, maintenant avec un tourisme essentiellement chinois. Et donc une communauté, une société typiquement matrilinéaire, c'est une communauté dans laquelle la transmission passe par une filiale féminine, donc par la mère. C'est la mère qui transmet, c'est aussi elle qui est le chef, la dabou, c'est la chef du clan. Chaque clan a sa propre dabou.
Chaque foyer, en fait.
Chaque
maison. C'est une lignée de femmes. Finalement, on se transmet le nom, on se transmet l'héritage.
On peut
vivre à plusieurs générations comme ça dans une maison où règne la dabou dont vous parlez.
Absolument, la dabou. Et le père biologique n'a aucun rôle sur ses propres enfants. D'ailleurs, dans la langue mosso, le mot père n'existe pas, le mot jalousie n'existe pas non plus. L'époux également n'existe pas. Et donc, le tuteur de l'enfant, dans ces sociétés matrilinéaires, c'est l'oncle maternel.
Donc, pas de mari, pas de père au départ, parce que c'est un peu en train de changer, évidemment, avec les influences extérieures. Mais tout de même, la notion de couple est encore assez ténue chez les Mosso. Je vous propose d'écouter, justement, la parole de Mosso femmes et hommes au sujet de la vie de couple.
Je n'ai jamais imaginé vivre en couple. Chez les Mosso, ça ne se fait pas de se tenir la main ou de s'embrasser devant les autres. Mon compagnon et moi ne se voient que la nuit, pas dans la journée. Et du coup, on ne passe que de bons moments ensemble. On n'a pas de disputes. C'est très bien.
Tu
Le matin, quand je me lève, j'entends parfois mon père repartir ou mes oncles qui rentrent. À cette heure-là, dans le village, il y a toujours plein d'hommes qui quittent leurs compagnes pour rentrer chez eux. On appelle ça le mariage ambulant. Mais il ne faut pas les croiser. Ça ne se fait pas.
Moi, je pense que ce n'est pas bien de vivre en couple. Comment peut-on gérer une famille à seulement deux personnes? On ne peut pas s'occuper de tout. Il vaut mieux vivre comme les Mozos, dans des grandes familles.
Un extrait du documentaire Terre de femmes de Agnès Molia, diffusé sur Arte. Une société dans laquelle la vie de couple est cachée, n'est pas centrale en tout cas. Cette structure, hein, vous l'avez dit, existe depuis plus de 2000 ans. C'est ce qui est intéressant dans vos reportages photographiques. On se rend compte que une organisation sociale très différente des nôtres est possible et pérenne, Nadia Ferroukhi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est étonnant de se dire ici, on a cette notion très forte du couple soudé, et encore, ça se discute. Et c'est vrai que là, on voit qu'il y a d'autres façons de s'unir, et c'est pas pour autant que ça engendre des problèmes, voire apparemment, même c'est plus simple à gérer. Alors effectivement, donc, l'homme vient en visite, il s'appelle le Azou, l'amant, ouais. Il vient en visite dans la chambre donc, de sa bien-aimée.
Oui, et dans ces maisons de femmes, chaque femme à sa chambre, oui, et est libre de recevoir les hommes qu'elle veut, pas forcément uniquement le père de ses enfants d'ailleurs.
C'est pas mal vu par eux. En revanche, les Chinois qui eux viennent en touristes voient ce royaume des femmes comme cette espèce de concept d'amour libre et les traitent un peu comme si c'était des prostituées. Or, c'est pas du tout. C'est encore un autre fonctionnement.
C'est ça. En fait, le regard qui est porté sur cette civilisation millénaire est complètement dévoyé.
Négatif de l'extérieur. Ouais.
Alors, les Mozos font partie de ces communautés dans lesquelles vous êtes allé, Nadia Ferroukhi. Le point commun de toutes ces communautés, qui sont quand même très divers dans leur organisation, c'est la place qu'occupent les femmes. Quelle est la caractéristique commune que vous voyez dans toutes ces communautés que vous avez visitées?
Alors, contrairement à... Alors déjà, le mot matriarcat, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais c'est quand même important de dire que c'est un mot qui, selon les différentes écoles de pensée, d'ethnologues, de scientifiques, il y a ceux qui sont pour, en disant que ça existé, que ça existe encore, et d'autres qui disent que ça n'a pas existé, c'est que ça n'a jamais existé.
C'est-à-dire que dans les sociétés patriarcales, l'homme domine. Et il n'y a pas d'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société matriarcale dans laquelle les femmes domineraient. Non. C'est une autre façon d'équilibrer les pouvoirs.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis. Donc la femme, elle n'est pas au-dessus, elle est centrale. Donc elle a un rôle, une place très importante, valorisée, mais elle n'est pas au-dessus des hommes.
Alors, dans ces sociétés, les équilibres entre les hommes et les femmes, les équilibres de pouvoir sont différents. On en a un très bon exemple chez les apothèques, au Mexique, où là, les femmes ont au moins le pouvoir économique. C'est elles qui gèrent l'argent. C'est-à-dire que les hommes travaillent, ils vont faire la pêche, ils cultivent la terre, mais ensuite, ce sont les femmes qui transforment leur production.
Les femmes fructifient la matière brute, si on peut dire comme ça, des hommes. Et donc, les marchés à Oaxaca, c'est 100% féminin. Donc, c'est que les femmes qui gèrent le commerce. Et c'est aussi elles qui gèrent l'argent dans le foyer et qui donnent l'argent de poche, je ne sais pas comment on peut appeler ça, aux hommes.
Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles redistribuent l'argent. Donc, c'est quand même elles qui ont un sacré pouvoir, là, qui décident qui gagne quoi dans la communauté. Oui. Mais tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans leurs mains, puisque vous dites, par contre, si on va du côté de la municipalité, du pouvoir politique...
Oui. Là. J'ai été surprise. Ça reste quand même très masculin encore. Alors, c'est en train de changer tout doucement, mais voilà, il y a encore du chemin.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, il y a maintenant plus de 10 ans, d'aller à la rencontre de ces communautés où les femmes ont un rôle central, Nadia Ferroukhi?
Alors, on me dit souvent depuis que le livre est sorti, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps. Alors, c'est
une expression vous êtes depuis plus de 10 ans.
Oui, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai dit, bon, d'accord, ok, c'est dans l'air du temps, soit. Bon, mais en même temps, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout réfléchi comme ça quand j'ai commencé ce travail. J'ai commencé par le Kenya, au fait, il est un peu différent. Il sort un petit peu de l'histoire du matrilinéaire. C'est un village uniquement constitué de femmes et d'enfants. qui, elles ont toutes subi des violences diverses, conjugales essentiellement. Et donc, elles se sont réunies donc, avec le premier village Umoja. Ouais.
Alors, ce premier village Umoja, justement, hein, il a été fondé en 1990 par une femme, Rebecca Lolosoli. Je vous propose de l'écouter.
Actuellement, 48 femmes habitent ici. Et il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. Comme vous pouvez le voir, on est en train de construire de nouvelles maisons. Dans notre communauté, les femmes n'ont aucun droit. Elles ne reçoivent aucune éducation, elles ne vont pas à l'école, elles n'ont pas d'emploi et elles ne possèdent aucun bétail. Elles n'ont rien pour subvenir à leurs besoins. Le peuple Samburu est polygame. Et quand un homme commence à se lasser de sa première femme, il arrive qu'il la batte. Et puis il finit par la mettre à la porte de la maison qu'il partageait.
Donc toutes les femmes qui sont réunies ici ont eu une vie très difficile.
Elles ont été battues, elles ont été menacées de mort et elles ont été violées. On a lancé Umoja en 1990. On a décidé de construire ce village afin de pouvoir vivre ensemble et se soutenir les unes les autres.
Alors c'est en voyant un documentaire sur ces femmes que vous avez décidé d'aller à leur rencontre au Kenya. Alors on est près du mont Kenya, à 300 km au nord de Nairobi. Plusieurs de ces villages se sont créés depuis, hein, Nadia Ferouki.
Oui. Voilà, donc l'idée c'est que ces femmes vivent ensemble en communauté et les enfants, les garçons à l'âge de 16 ans à peu près, doivent quitter le village. Donc ils peuvent revenir en visite mais ils ne peuvent plus y séjourner.
Ces femmes à l'origine appartiennent à la communauté Samburu. Elles sont, c'est presque un euphémisme que de le dire, elles sont particulièrement maltraitées, ces femmes.
Bah déjà la place de la femme au Kenya n'est pas enviée, loin de là. Effectivement, chez les Samburu, les Turkana, les Maasai et d'autres tribus, la femme a vraiment, elle ne possède rien, comme l'a dit Rebecca. C'est elle qui travaille le plus. Elle n'a ni terre, ni bétail et elle est souvent maltraitée. Mmh. Et c'est donc dans ce village, il y a beaucoup de femmes qui ont été répudiées également. Ouais.
Et dans ces villages, évidemment, les petites filles sont protégées. Par exemple, l'excision n'a plus cours dans ces villages.
Elles ont toutes subi, donc malheureusement, l'excision. Et donc, elles se battent pour que leurs filles n'ont pas à vivre cette atrocité.
Cette mutilation. Oui. Mais comment sont perçus ces villages par les hommes autour? On imagine d'un mauvais œil.
Oui, d'un mauvais œil. Elles sont parfois un petit peu agressées, ouais. Parfois attaquées aussi, donc elles sont quand même protégées.
C'est ce qu'on voit sur vos photos. Hein. Elles ont construit des sortes de remparts en branchage pour essayer de passer la nuit tranquille. Oui. Ça éloigne à la fois la faune sauvage, mais aussi les hommes qui pourraient s'attaquer à elles.
Non, elles sont pas du tout bien vues, mais bon, elles résistent. C'est pour ça que j'ai aussi créé depuis une association pour aider ces femmes parce que elles sont quand même assez pauvres. Il n'y a pas non plus beaucoup de tourisme qui passe par là. Elles vivent que de ça essentiellement. Et elles ont quand même ce courage de persévérer et en plus d'avoir créé d'autres villages à la suite, quoi. Donc c'est quand même assez admirable.
Quel est le nom de votre association, Nadia Ferouki?
Duniatu.
Ce sont ces femmes kenyanes qui ont créé des villages de femmes qui sont en photo sur votre ouvrage, Les Matriarches. Elles sont sublimes, ces femmes habillées de vêtements colorés avec des bijoux, le cou peint d'un maquillage rouge, elles tiennent un bâton à la main, elles se tiennent droites et on a l'impression alors qu'elles sont en train de chanter parce qu'elles ont toute la bouche ouverte, la tête haute. Elles donnent des frissons, cette photo, Nadia Ferouki.
Vous l'avez bien décrite, hein, la photo.
Elle a été prise dans quelles circonstances?
Elle a été prise, donc lorsque je suis arrivée dans ce village, elles m'ont accueillie par des chants.
Ouais.
Qui à la base sont des chants qui demandent aux esprits la pluie, du bétail, enfin toutes sortes de choses pour aider leur quotidien qui est quand même rude, et aussi pour m'accueillir. Donc c'est vrai que pour moi je me sentais comme une princesse kenyane. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'était des frissons comme vous avez dit, c'était très émouvant.
Ce sont ces femmes kenyanes qui vous ont donné envie d'aller à la rencontre des sociétés à travers le monde où les femmes occupent une place centrale. Vous allez, Nadia Ferouki, nous emmener du désert algérien à l'Indonésie en passant par l'île d'Ouessant à la rencontre de celles que vous surnommez les matriarches. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Bye.
un groupe de blues de femmes Touareg, originaire du Niger, Fatou Seydi Gali, qui chantait Egas Malan sur France Inter, le temps d'un bivouac.
De manière générale, la femme Touareg est le pilier de la maison. Donc on l'appelle dans la langue Touareg, Massas Nariwan, qui veut dire la maîtresse de la maison. La maison appartient à la femme. Quand les Touaregs font une transe immense, il revient à la femme de choisir les lieux où la tente doit être plantée. Ce n'est pas une question de compétence, c'est vraiment un rôle majeur dans la famille. La gestion de la famille, la gestion, la prise des grandes décisions, c'est vraiment la femme. Les Touaregs disent la femme, c'est les pantalons de son mari. Donc c'est elle qui est la protectrice même de son mari. Donc quand il a une décision à prendre, il consulte sa femme.
Une femme Touareg en 2015 dans l'émission Sur les docks de France Culture. Voilà qui doit évoquer quelques souvenirs à notre invitée, la photographe Nadia Ferrouki. Vous êtes allée, Nadia, à la rencontre des Touaregs, alors dans le désert algérien. C'est un lieu que vous appréciez tout particulièrement.
Oui, parce que bon, déjà, je suis de père algérienne, donc c'est un pays que voilà, que c'est mon pays. J'ai grandi petite et donc j'ai un lien très fort avec le pays. Et en plus, le peuple Touareg, je pense que j'étais Touareg dans une autre vie.
En tout cas, vous êtes nomade, parce que vous dites.
Oui, déjà, je suis nomade.
Père algérien, mais une mère tchèque. Comme il était diplomate, votre père, vous avez très tôt voyagé à travers le monde, donc vous avez un peu cette fibre nomade en vous.
Ben oui, c'est un petit peu comme voilà, une fois qu'on a été piqué par ça, c'est ça fait 2 ans que j'ai pas pris un avion et c'est vrai que ça commence à me démanger là.
D'ailleurs, quand on entendait le chant hein, à l'instant des femmes Touareg, vous m'avez dit là, ça me donne envie de repartir.
Ah oui, trop. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez vécu dans ce désert? Vous avez buloté sous la tente de ces Touareg. C'est vraiment une communauté qui fait une place importante aux femmes.
Oui. Alors, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que le titre de noblesse, parce que vous savez, chez les Touareg, il y a un système de, qui est pas très à envier, mais un système de caste. Et donc chez les Touareg, lorsque la femme est noble, elle peut transmettre le titre à ses enfants. Or, si l'homme est noble et la femme ne l'est pas, il ne peut pas transmettre.
Donc une forme de matrilinéarité, là encore.
Et aussi, c'est elle qui transmet la culture, la langue, qui est quand même très importante, les chants.
Et puis qui possède la tente.
Et qui possède la tente.
Exactement. Évidemment, c'est formidablement important.
Et le bétail, sauf
important.
Les chameaux. Ouais. Les chameaux, c'est une affaire des hommes. Si ils se séparent, c'est elle qui garde aussi tout. La dot, la tente, le bétail, sauf les chameaux.
Alors, je le disais, vous aussi, vous avez une âme nomade de par votre parcours. Étant jeune, vous êtes passé de l'Algérie, ensuite à l'Autriche, puis aux États-Unis. C'est ce qui explique que vous soyez... Vous semblez ne jamais être perturbé par le dépaysement. Au contraire, c'est ce que vous cherchez.
C'est ce que je recherche, oui. Oui, j'aime le voyage autant que la photo. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Je pourrais pas partir sans appareil et en même temps, voilà. Donc, c'est vrai que quand je découvre une nouvelle culture, un nouveau pays, et quand on est perdu et qu'on connaît rien, enfin, ou presque rien, on sait deux, trois choses, c'est à chaque fois, j'ai l'impression de renaître. Et c'est ce qui garde peut-être aussi mon côté un petit peu jeune, entre guillemets, dans la tête. Je pense que ça, voilà, on vieillit moins vite peut-être, en quelque sorte. Parce que voilà, c'est toujours cette découverte du nouveau et cette curiosité que j'ai aussi pour l'autre. Et puis c'est une passion.
Ça vous fait un point commun avec l'anthropologue Françoise Héritier, à qui vous rendez hommage dans votre ouvrage. Vous l'aviez rencontrée, vous lui aviez montré vos photographies. Je vous propose d'écouter cette anthropologue célèbre qui s'est beaucoup intéressée justement à la question de la place des hommes et des femmes dans les différentes sociétés du monde. Elle avait un goût aussi pour l'Afrique subsaharienne, tout comme vous, Nadia Ferrouki. Elle évoquait en 2006 son émotion à se rendre dans cette région du monde.
La première émotion est une émotion olfactive. L'arrivée en début de nuit, la nuit tombe à 6 heures sous ces tropiques, sortir sur le tarmac et puis recevoir d'un choc la puissance de l'odeur de la terre africaine, une odeur poivrée, épicée, chaude, humide, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose de fabuleux. Et ça me donnait la chair de poule, enfin, c'était quelque chose d'extrêmement fort. On l'oublie ensuite, une fois qu'on y est habitué, on n'y fait plus attention. Sur le terrain, une fois que vous êtes accepté, vous découvrez des gens qui sont tellement semblables à votre famille, à vos relations, que vous vous retrouvez en terrain connu. Il y avait une familiarité qui tenait au fait que dans la pratique, dans leurs usages corporels, dans leur façon de parler, de se tenir, ces gens m'évoquaient toujours des personnes que je pouvais avoir connues.
L'anthropologue Françoise Héritier, en 2006, c'est le genre de discussion que vous pouviez avoir avec elle quand vous lui rendiez visite, Nadia Ferrouki?
Bah oui, j'ai vraiment eu l'honneur de la côtoyer. Je suis allée, je ne sais plus combien de fois, chez elle avec toujours un petit dessert parce qu'elle aimait bien les sucreries et moi aussi. Et bon, la première fois, j'étais très impressionnée hein, parce que c'est quand même une grande, grande dame, quoi. Et puis bon, très intellectuelle, très, c'est qu'il n'y a pas mon cas. Donc moi, voilà, tout de suite, je me sentais un petit peu. Et au fait, elle m'a tout de suite mis à l'aise. Elle est d'une simplicité et d'une intelligence brillante. Enfin, vraiment, ça a été un bonheur. Et c'est vrai que l'écouter, là, ça me donne des émotions, parce que c'est elle qui devait écrire la préface à la base, mais donc elle est partie, elle nous a quittés 3 jours avant. Et ce qu'elle dit sur la terre d'Afrique, moi, c'est vrai que j'ai un faible pour l'Afrique noire, et c'est ce que cette terre rouge, il y a une odeur particulière quand on arrive, quand on sort de l'avion, parce qu'il brûle beaucoup de différentes choses pour dégager les moustiques, pour cuire la nourriture dans la rue, n'importe. Et cette odeur, donc je comprends complètement son langage, et je pense que ce qui nous reliait toutes les deux, parce que bon, elle m'a appris surtout des choses. Moi, je ne lui ai rien appris, sauf peut-être lui raconter des histoires de communautés qu'elle ne connaissait peut-être pas.
Comme c'était le cas, je crois, des femmes au Kenya,
voilà,
dont
par
on
exemple,
parlait tout à l'heure.
C'est un phénomène récent. Ouais. Et je pense que ce que je lui ai apporté en toute modestie, c'est effectivement ce côté... elle ne pouvait plus aller sur le terrain. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui devait beaucoup... Elle ne me l'a pas dit comme ça, hein, c'est ce que je devine. Hein. Donc voilà, lui raconter mes histoires du terrain, je pense ouais. que ça devait aussi lui apporter un certain
Vous l'avez fait
plaisir.
Un peu voyager par procuration
voilà.
À la fin
ouais,
de,
qu'elle était quand même,
de sa vie. Voilà. Comment vous, justement, vous abordez le terrain, Nadia Ferrouki? On entendait hein, Françoise Héritier dire, finalement, assez rapidement, elle établit une proximité avec les gens qu'elle rencontre parce qu'ils lui évoquent des proches. Ouais. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous arrivez en un temps beaucoup plus court que les anthropologues? Parce
oui.
qu'à chaque fois, c'est quelques semaines, hein,
oui,
pas plus
oui,
sur
oui.
le terrain que vous passez avec ces gens. Comment vous établissez cette proximité?
Bah, déjà, c'est quand même une frustration de ne pas pouvoir rester longtemps. Mais bon, après, il y a une réalité de beaucoup de choses. Voilà, comme je ne suis pas anthropologue, donc effectivement, en tant que reporter, on ne peut pas rester des mois et des mois ou des années à étudier juste un sujet. Alors, quand j'arrive dans un lieu et que je ne connais rien, cette espèce de renaissance, de découverte, c'est très fort. Mais très vite, il faut s'adapter aussi et être présent, être là. Et je pense avoir cette capacité d'adaptation, peut-être parce que j'ai beaucoup bougé dans ouais. toute ma vie. Très vite, c'est bon, je suis chez moi, en quelque
ah
sorte.
Oui.
Et c'est vrai que les gens, j'ai cette chance, je pense que les gens m'accueillent aussi facilement. Il y a un lien qui se crée très, très vite avec les
gens. Il faut trouver
le
bon positionnement, à la fois être suffisamment en retrait pour pouvoir
oui.
observer,
aussi, aussi.
Ne pas perturber
oui.
ce qui se passe autour de vous
oui,
et en même
arrive...
temps vous faire accepter.
Bah oui, parce qu'on arrive dans des communautés qui parfois n'ont jamais vu. Bah, à Kanyabak, par exemple, en Guinée-Bissau, là c'était sur une île et les bébés, quand ils me voyaient passer, ils pleuraient. Je leur faisais peur par ma peau blanche, je ouais. suppose. Là, il n'y a personne. Il y a de ouais. temps en temps un humanitaire qui passe et encore, c'est vraiment une île où là on est coupé du monde.
Là, une petite île hein, qui appartient
à Guinée-Bissau. Voilà,
avec le peuple Bijagos.
Ouais.
Vous dites que c'est peut-être ce peuple que vous avez eu le plus de mal à
oui.
comprendre, parce que les codes culturels sont si différents, les croyances, que vous étiez là pour le coup perdu. Mais le dépaysement ne vous fait pas peur?
Non, mais c'est vrai que c'est là où je me dis, tiens, peut-être que si j'étais anthropologue, je pourrais peut-être mieux capter le truc. Mais c'est vrai que j'avais deux guides, dont un homme et une femme. Et à chaque fois qu'ils m'expliquaient les différents rituels qu'ils avaient par rapport aux esprits, tout ce qui est autour du religieux, de la spiritualité, c'était très compliqué à comprendre. Donc voilà, ça a été le plus...
Alors une chose par contre à laquelle vous avez pu assister et que vous avez tout à fait comprise, c'est l'organisation, la façon dont on prend les décisions chez les Bijagos. C'est-à-dire que là, ce sont des conseils de femmes où il oui. n'y a que des femmes. Et c'est très démocratique la façon dont se prennent les décisions.
Oui, alors c'est un groupe de femmes qui se réunissent, donc le conseil des femmes. Elles prennent toutes sortes de décisions. Et ensuite, après c'est un homme, donc c'est le roi. Mmh. Il y a un roi et une reine, ouais. mais ils ne sont pas mariés tous les deux. Et c'est au roi qui sert uniquement de porte-parole pour communiquer la décision qui a été prise ouais. par les femmes.
Donc ce sont les femmes qui prennent les décisions et puis les hommes font les porte-voix chez les bisexuels.
Et c'est matrilocal aussi, l'homme s'installe chez la femme.
Oui, matrilocal.
Ça, on n'en a pas parlé aussi, matrilocal.
C'est différent de matrilinéaire, ça peut aller de pair, mais ça ne va pas forcément. Alors, c'est
matrilinéaire, c'est donc la transmission par la lignée féminine, et matrilocal, c'est lorsque l'homme vit chez la femme.
Alors chez les bijagos, les photos là encore sont superbes, hein, parce qu'à chaque fois vous captez, ça peut être des portraits, des scènes de vie, des cérémonies. Il y a toutes ces photos que l'on voit dans votre livre. Et puis, il y a celles que vous n'avez pas pu prendre, les photos qui vous ont échappé. Et c'est le cas chez les bijagos.
Oui, c'était... Au fait, régulièrement, ils questionnent les esprits. Et donc, ils égorgent un coq. Donc j'ai demandé si on pouvait faire, alors pour le coup là, une mise en scène. Mais quand je dis mise en scène, qu'on soit d'accord, c'est toujours dans la réalité. Hein. Je n'invente pas des choses qui n'existent pas.
C'est reconstituer quelque chose qu'ils font régulièrement, mais là vous demandez à ce que ce soit fait pour vous.
Voilà, donc j'ai acheté le coq, on s'est mis dans une case, tout en rond comme ça, avec hommes et femmes. Je m'apprête à faire les photos et tout d'un coup, ma guide, Hilda, elle me dit... j'entends qu'il y a une espèce de brouhaha, une espèce d'agitation, qu'il y avait un malaise, je le sens. Et elle me dit, écoute, il y a un problème. Toi, tu peux rester, les esprits t'acceptent, mais l'appareil photo doit sortir. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que juste avant, et ça vraiment, je n'invente pas, on est quand même en Afrique, il faisait beau, soleil, chaleur et tout. Et tout d'un coup... Juste avant que cette décision ait été prise, il y a eu un nuage gris. Donc pour eux, c'est les esprits qui ont parlé. Alors moi, je respecte ça, mais c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais toute une série de photos que je voyais là, que j'ai jamais pu faire. Ils ont égorgé le coq au centre avec le sang qui coulait et donc il y avait des lumières. Vous savez, quand cette lumière rentre comme ça de l'extérieur dans les cases, ça fait un contraste superbe avec des physiques aussi incroyables.
Ouais, vous avez vu défiler devant vous des photos qui vous ont échappé.
Je les voyais dans ma tête, mais il faut respecter.
Bien sûr, évidemment, c'est la règle du jeu. Hein. Vous n'allez pas aller contre leur volonté. Nous allons poursuivre avec vous, Nadia Ferrouki, nos découvertes de ces communautés auxquelles vous avez rendu visite, communautés dans lesquelles les femmes occupent une place centrale. Et vous nous direz pourquoi les Ouessantines, les habitantes de l'île d'Ouessant, figurent parmi les femmes auxquelles vous avez rendu visite.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue, cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassées. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Douceur d'une soirée de novembre, belle comme une robe d'été. jour, la beauté nous rassemble et nous emporte. Si haut qu'elle nous métamorphose, que nous puissions réunir en confiance, graver le poids fragile de l'existence.
C'était Émilie Loiseau qui chantait Le poids de l'existence.
France Inter, le temps d'un bivouac.
C'est très important pour nous que notre fille Anna se marie, car c'est la seule à pouvoir continuer la lignée familiale. Selon la tradition Minangkabau, ce sont les filles qui héritent. Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur quand Anna est née. J'avais eu des difficultés à tomber enceinte. Et je ne savais pas si ça serait une fille ou un garçon. Et quand j'ai su que c'était une fille, j'étais tellement heureuse d'avoir une héritière qui allait pouvoir continuer la lignée familiale.
Les femmes Minangkabau font plutôt des métiers intellectuels. Elles travaillent car ce n'est pas du tout dans leur caractère de se taire et de rester à la maison en attendant leur mari.
Un nouvel extrait de la série Terre de femmes de Agnès Mollia, série documentaire diffusée sur Arte. On y entendait donc une mère et sa fille, Minangkabau, une communauté qui vit en Indonésie sur l'île de Sumatra. Vous vous y êtes rendue, hein, Nadia Ferouki. Là, c'est quand on dit communauté, c'est un groupe, une grande population, hein.
Oui, la plus importante même, parce que c'est le groupe matrilinéaire le plus important au monde. Ils sont environ 6 millions. Donc ça, voilà, ça veut quand même dire que c'est assez incroyable. Et surtout, c'est une ancienne aussi tradition. C'est un peu comme chez les Mosso.
Oui, les Mosso de Chine, on parlait en début d'émission. Oui. Là aussi, l'héritage est transmis par les mères. Donc c'est un drame si on n'a pas de filles, contrairement à toutes les sociétés patriarcales.
Oui, c'est très important d'avoir une fille qui naît. Et alors, ce qui est intéressant chez les Minangkabau, c'est que ils ont un code, des droits coutumiers qui s'appelle la date, qui était transmise de façon orale, qui donnait une place très importante à la femme. Et ça c'est pré-islamique, donc avant que l'islam s'implante.
Parce qu'aujourd'hui, l'islam s'est implanté, mais finalement, ces lois perdurent, ces règles perdurent.
Oui, ces règles perdurent, donc c'est une espèce de cohabitation entre l'islam et le droit coutumier qui est donc la date, où c'est donc la femme qui hérite, qui transmet. Lorsqu'un couple se marie, elle garde son nom et l'homme s'installe chez elle. Oui. S'il se sépare, c'est aussi lui qui quitte le foyer.
C'est ça. Alors comment les hommes Minangkabau vivent-ils leur situation? Voici la réponse de l'un d'entre eux.
Moi, c'est ma mère qui a arrangé mon mariage et m'a amené dans cette maison. Elle m'a proposé de me marier pour assurer la descendance de cette famille. J'ai été invité à vivre ici pour ça, pour faire des enfants. Je suis donc invité chez ma femme. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la façon la plus simple de t'expliquer ma situation. Moi, je ne travaille pas, mais je vis bien, parce que ma femme m'entretient. C'est elle qui gagne notre vie. Je viens chez ma femme pour manger, pour dormir et pour la prière. Mais la plupart du temps, dans la journée, je reste chez maman.
Les Minangkabau ont adopté la religion musulmane et ils la concilient parfaitement avec leur culture initiale qui donne beaucoup de prérogatives aux femmes, hein. On l'entendait. Hein.
Non, mais c'est étonnant ce qu'il dit parce qu'en plus, déjà, par rapport à dans le pays dans lequel ils sont, hein, donc quand même avec la transmission, et donc la fille hérite un tiers et le garçon deux tiers, donc déjà c'est quand même incroyable. Mais aussi même par rapport à nous en Occident, de dire voilà, ma femme entretient, puis voilà, ça, Il accepte ça, quoi.
Il accepte ça, il ne semble pas du tout s'en plaindre. Est-ce que dans les sociétés de femmes que vous avez documentées, photographiées, vous avez rencontré des hommes qui se plaignaient de leurs conditions?
Non, je n'ai pas rencontré ça. J'ai senti aucune animosité entre hommes et femmes. Alors, il y a un exemple, parce qu'au fait, c'est un travail que je compte poursuivre. Ouais. Alors, je ne vais pas citer les filles, parce que je suis encore en plein de recherche, mais il y en a un qui est connu également, où j'aimerais aller, c'est les Jaintias et les Kassis en Inde, où là, il y a une association d'hommes qui a été créée, qui demande justice, ils demandent plus de droits et aussi de pouvoir hériter. Donc là, je ne suis pas encore allée, donc voilà.
Ouais. Mais on va revenir nous le raconter.
Oui,
mais par contre, pour le moment, vous n'avez pas senti de contestation. Alors, vous êtes allée dans beaucoup de pays, sur tous les continents, hein, vous avez documenté, photographié ces sociétés. Et puis, il y a une halte que vous avez faite en France. Il ne s'agit pas d'une société matrilinéaire, mais d'une communauté insulaire, située à l'extrême pointe occidentale de la Bretagne, sur l'île d'Ouessant. À une époque pas si lointaine, sur cette île, les femmes ont dû s'organiser sans leur marin de mari. Parole d'une Ouessantine, Jeanne Louette, qui a connu cette époque.
Surtout être femme de marin, il faut avoir la tête sur les épaules, parce qu'on a toutes les responsabilités. Hein. On décide. Quand les hommes ne sont pas là, il faut décider de tout. Hein.
Les femmes m'ont fait de cette île ce qu'elle est?
Je pense, oui. Parce que c'était les femmes, quand même, qui restaient là, hein, qui travaillaient. Qui travaillaient la terre. Maintenant, elle est inculte, mais il fut un temps, elle n'était pas. Hein. Non. Même pendant la guerre, 39-45, tout était cultivé, pour le besoin d'ailleurs, mais aussi parce que c'était dans la coutume de le faire. Hein. Après, il y a eu le bien-être. Il y a eu plus d'argent, bon, on a commencé à diminuer le travail. On avait même levé du petit Guémon, encore en plus.
Pourquoi?
Ben pour avoir un petit peu d'argent, un petit supplément. On avait le plaisir d'aller à la grève, lever du petit Guémon, d'aller entre copines, plusieurs. Et puis, c'était pas toujours facile. Hein. Et puis on avait du plaisir quand on pouvait faire nos 50 kilos, nos 100 kilos. Et quand mon mari revenait de Saigon ou d'Indochine, ben, il me dit, ben, tu sais, on fait la soupe chinoise, on fait le riz cantonné. Ben, on le fait, nous, il y a longtemps, hein. Ben oui, c'était des recettes qu'on apportait des pays où on allait. Un pays de marin, on apprend toujours.
Une archivina de 2007, la voix de Jeanne Louette qui est décédée depuis. Et vous avez rencontré et photographié Jeanne Louette, Nadia Ferrouki.
On l'a même logée chez elle.
Ouais. Pourquoi avez-vous eu envie d'aller à la rencontre de ces Ouessantines? Leur communauté est un peu différente de celle que vous avez pu...
Je voulais absolument trouver quelque chose en Europe. Je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quand même une petite communauté quelque part. Et donc, au bout de quelques recherches, je suis tombée sur l'exemple donc, effectivement, des femmes bretonnes. On m'avait déjà dit que voilà, ce sont des femmes qui ont la tête bien sur les épaules. Mais donc, j'ai découvert Ouessant et j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de ces dernières femmes qui ont encore connu cette époque, donc où les hommes partaient des mois et des mois très loin. Et donc, elles ont dû tout gérer, comme elle explique très bien Jeanne, elle-même, entre elles. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le même phénomène existe à plusieurs milliers de kilomètres en Estonie, sur une île également, qui fait la même superficie, Kinou, l'île de Kinou, où là aussi, les femmes, pour les mêmes raisons, s'organisaient entre elles. Sauf que depuis 2003, je crois, si je ne me dis pas de bêtises, leurs coutumes ont été classées patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui est un bien et un mal. Ça apporte beaucoup de touristes. En été, je crois qu'il y a jusqu'à 15 000 touristes, ce qui pose un problème pour certaines de ces femmes. Comme à Ouessant aussi, elles ne voient pas forcément d'un bon oeil en été quand il y a plein de gens qui... C'est quand même des femmes qui ont été à Ouessant et à Kinou, je crois que c'est celles qui m'ont peut-être le plus difficilement accueillie.
Ah oui, curieusement finalement, c'était les plus proches culturellement.
Oui. Oui, c'est vrai.
Et vous avez eu le plus de difficultés à vous intégrer?
Oui, elles sont vraiment un peu à l'ancienne, hein, donc je ne sais pas.
Ce qu'il y a en creux aussi dans toutes ces communautés que vous avez rencontrées, c'est qu'on a l'impression que ce sont des communautés menacées un peu par ce qui se trouve autour, par les influences, la mondialisation. Vous avez eu l'impression de photographier un monde en train de disparaître, Nadia Ferrouki?
Après, c'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Hein. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais oui, ah oui, je pense qu'il y en a certaines qui disparaîtront. Peut-être des nouvelles, hein, comme le Kenya. C'est un exemple quand même récent. Et en même temps, c'est quand même étonnant de voir comment les apothèques, les Minangkabau et les Mosso, par exemple, ont su résister aussi longtemps dans un monde très patriarcal, dans des pays aussi, parce que la Chine de Confucius, le Mexique, quand même, pays macho, etc., ont quand même pu résister. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, peut-être... Et puis, il y a aussi maintenant, effectivement, la mondialisation, les réseaux sociaux. Par exemple, en Chine, les jeunes Mosso aspirent à se marier. Ils considèrent que c'est moderne, contrairement à chez nous.
Oui, c'est ça. Alors que pendant des millénaires, le couple n'avait pas sa place chez les Mosso. Merci, Nadia Ferrouki. Votre livre alliant photos et textes s'intitule « Les matriarches ». Il est paru aux éditions Albin Michel. Un grand merci à vous, Nadia Ferrouki.
Merci à vous.
Dans un instant, nous partons à la découverte des terres volcaniques de France avec le passionné de géologie, Georges Fetterman. Hey, it's okay. Look over the fence. There's things over there that I know you don't know about yet. Listen. I'm so defensive. There are things over there that I do not know about. I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. C'était Rémi Wolf qui chantait Grumpy Old Man sur France Inter dans le temps d'un bivouac et la programmation musicale est signée Valentine Chédebois.
Juliette Eco, on vient de décoller pour un vol local autour des puits.
On peut tourner un peu comme ça. Voilà. On commence à percevoir le plateau et puis au fond les volcans, le massif du Sancy à gauche, la chaîne des puits à droite. Et toutes ces taupinières, toutes ces buttes sont chacune un volcan. Et tout a l'air disposé comme ça au petit bonheur, mais ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun objet qui est là par hasard. Et l'intérêt de le regarder dans l'air, c'est qu'on comprend une logique que normalement au sol, on a plus de mal à percevoir.
Le géographe Yves Michelin survolant la chaîne des puits dans le nord du Massif central. Bonjour Georges Fetterman.
Bonjour.
passionnée de nature et de géologie, vous venez de publier « Les forces de la nature en France » aux éditions Delachaux et Niesley, un livre dans lequel vous expliquez comment les paysages de nos régions se sont formés et ont été sculptés et travaillés par les forces de la nature. Et vous faites tout naturellement une place au volcan d'Auvergne dans votre ouvrage. Alors la chaîne des puits, ça constitue vraiment un modèle pour les amoureux des paysages volcaniques ?
Ah oui, c'est le bonheur absolu pour les passionnés de volcans. Pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit de volcans très jeunes. Alors pour le public, quand on dit quelques milliers d'années, ça paraît loin. Mais à l'échelle des volcans, on peut imaginer que cette chaîne des puits se réveille un moment ou un autre. Quelques milliers d'années, c'est rien du tout. Ouais. Les dernières manifestations, c'est moins 15 000, moins 12 000, moins 7 000, moins 5 000 ans. Pourquoi pas demain ?
Ouais. C'est-à-dire que ça peut encore entrer en éruption. On les verrait venir quand même, ces éruptions ?
Pas forcément. Il pourrait y avoir une éruption aujourd'hui, pourquoi pas, ou dans 1000 ans. La marge d'erreur est assez grande.
Bon, vous allez inquiéter tout le monde. Alors, on trouve deux types de volcans différents dans le massif central. Ils sont facilement reconnaissables dans le paysage.
Alors dans la chaîne des puits où les volcans ont bien conservé leur forme du fait de leur jeune âge, on distingue les cônes et les dômes.
Ouais.
Là on peut pas faire de gestes, mais c'est facile, un cône et un cratère au sommet. Un dôme, c'est arrondi au sommet. Donc quand on est monté au puits de dôme et qu'on a cette vision, quand c'est en creux comme un coquetier, ça c'est le cône. Quand c'est arrondi, c'est le dôme. Et ça correspond à deux types de volcans qu'on appelle les volcans explosifs et les volcans effusifs.
Donc le puits de dôme, c'est un ancien volcan explosif.
Ouais, exactement.
C'est lié à la nature de la lave, hein, c'est ce que vous expliquez. Si la lave est fluide, ça fait des coulées régulières. Si la lave est visqueuse, ça fait des bouchons et à un moment, ça pète.
C'est ce qui est arrivé au puits de Dôme il y a environ 15 000 ans. Ce volcan si paisible sur lequel on monte avec un petit train maintenant, où il y a des vaches et des moutons, eh bien, il a eu une explosion terrifiante il y a 15 000 ans. Et 15 000 ans, je rappelle que Lascaux, c'est 17 000 ans. Donc, il y avait des hommes qui ont vu cette terrifiante explosion.
Ouais. Alors, il arrive que les volcans explosifs n'aillent pas au bout de l'explosion. C'est-à-dire, ils enflent, ils forment ces dômes et puis ils s'arrêtent là.
Oui, moi je les compare à des soufflets au fromage qui montent et puis qui se déballonnent, je dirais, d'une certaine façon, qui s'avachissent tout d'un coup avec cette lave visqueuse qui forme un bouchon, mais comme les gaz ne poussent plus en dessous, ça donne une forme arrondie, mais qui n'a pas explosé.
C'est le cas du célèbre Mont Gerbier de Jonc, hein, où on trouve les sources de la Loire.
Absolument, c'est une boursouflure dans la Haute-Loire, département que je recommande vraiment aux auditeurs parce qu'il est méconnu et il y a des merveilles sur le plan volcanique. Eh bien, le célèbre Mont Gerbier de Jonc, il est monté, il s'est avachi, comme j'ai dit tout à l'heure, et il n'a pas explosé totalement. Par contre, il aura sur les côtés la forme de refroidissement en tuiles ou en orgue particulière, plutôt tuiles que qu'orgue d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un des volcans qui s'appelle la roche tuilière et ces roches ont été utilisées pour la construction, pour les célèbres lauzes, les toits des maisons où on exploite directement le mode de refroidissement de la lave.
Ouais. Alors sur ces coulées de lave, il y a aussi des villages qui ont été construits. Et là, hein, vous le dites franchement, il y a un de ces villages que vous trouvez l'un des plus beaux de France.
Oui, je pense que vous évoquez Arlande.
Exactement.
Ça s'écrit Arlandes, pour le trouver sur la carte. Arlande, c'est une merveille absolue. Alors pour le voir, je conseille à ceux qui y vont de prendre du recul et de venir au bord de la jeune Loire qui vient de prendre naissance au Mont-Gerbier de Jonc. Ouais. Et de là, on a une vue fantastique sur une coulée de lave perchée en hauteur parce qu'elle a été dégagée par l'érosion. Et simultanément, les hommes ont construit effectivement le village avec une belle église traditionnelle romane. Mmh. Et ça donne de loin... Oui, pour moi, c'est un des plus beaux paysages de France, sans chauvinisme auvergnat.
Alors, dans les régions volcaniques, l'eau s'infiltre et ça donne naissance à des sources hydrothermales, des sources d'eau chaude. Vous parlez de celle qui détient le record de température dans votre
voie. Ah oui, c'est quelque chose, parce que moi, j'ai mis à chaque fois... quand j'emmène des gens là, je leur dis bah, « Mettez la main au niveau de la source. » Et tout le monde retire sa main vivement, parce qu'on est... On approche des 100 degrés, on est à 82, 83 degrés.
Mais c'est sadique comme expérience, Georges Fetterman.
Non, c'est pas très, on se brûle pas.
82 degrés. Hein.
Et ça s'appelle, le village, bien sûr, s'appelle Chaudes-Aigues. Ouais. N'oublions pas qu'on est en pays occitan. Hein. Donc Aigues, c'est qu'on retrouve à Aigues-Morte, par exemple, sont les eaux chaudes. Elles se sont infiltrées en descendant dans la lave, puis en remontant après des circuits assez complexes.
Et puis, il n'y a pas que les volcans d'Auvergne. Hein, sur le sol de notre métropole, on trouve des traces de volcanisme plus anciens.
Oui, avec une préférence pour des vieux fonds marins. Vous savez, dans les fonds marins, il y a du volcanisme qui s'opère et qui sépare les plaques tectoniques. Et ce volcanisme, donc retenons bien l'idée que c'est un fond marin. Mmh. Actuellement, on en voit un merveilleux à 2600 mètres d'altitude dans les Alpes. Ça s'appelle les rochers du Chenaillet, c'est près de Montgenèvre. Et ça fait des gros coussins de lave. Et quand les géologues vous emmènent voir un endroit comme ça, ils vous disent « Maintenant, retournez-vous, regardez, vous voyez ce que voient les poissons au milieu de l'Atlantique. Mais vous êtes à 2600 mètres d'altitude. »
Incroyable.
Ça montre la pression qui s'est exercée pour soulever les roches lors du soulèvement alpin.
Un autre exemple, au bord de la mer Méditerranée, le massif de l'Esterel, composé de roches magmatiques. Et là aussi, il y a eu un gigantesque volcan. C'était évidemment il y a très longtemps.
Alors un énorme volcan qui fait la surface non seulement de l'Esterel, mais aussi d'un petit bout de la Corse, puisque quoi qu'on en dise, la Corse a été continentale à un moment ou à un autre, ouais. et avec la Sardaigne, sa jumelle, s'est séparée de la Provence, et là est né un fond d'océan, et comme j'ai dit tout à l'heure, fond d'océan, volcanisme. Ce volcanisme, c'était le volcanisme à la fois de l'Estérel, mais aussi de la presqu'île de Scandola en Corse, au nord, ouais, de Porto, ce qui veut dire que la Corse et la Sardaigne occupaient à peu près l'emplacement du golfe du Lion.
Ouais.
Donc ça s'est déchiré, c'est une déchirure fantastique.
C'est-à-dire qu'on a les bords d'un cratère aussi bien en Corse que dans ce massif de l'Estérel ?
Non, parce que si vous vous souvenez tout à l'heure des volcans effusifs et explosifs, là on est dans le domaine des volcans explosifs et donc, ouais, pas de cratère.
Pas de cratère.
C'est vraiment une mousse, c'était une mousse comme de la ponce, vous savez, la fameuse fière ponce. Et qui donne deux couleurs différentes d'ailleurs, le plus souvent du rouge, mais parfois, comme au Cap Dramon, du vert, du rouge et du vert.
Voilà comment les colères de la Terre d'hier ont façonné des paysages paisibles d'aujourd'hui. Merci Georges Fetterman, votre livre s'intitule « Les forces de la nature en France ». Il est publié aux éditions Delachaux et Niesley avec de très jolies photographies dont la plupart sont de vous et puis des explications simples qui elles aussi sont de vous. Vous reviendrez nous raconter l'histoire d'autres paysages de nos régions.
Avec
merci
plaisir.
Et à bientôt Georges.
Avec plaisir, merci de me recevoir.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Claude Amezen, comme à son habitude perché sur les épaules de Darwin. Au programme aujourd'hui, des récits et des masques.